Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand la retraite rime avec isolement. Un texte de Chantal Cyr paru le 27 août 2025 dans le magazine Fugue. Pour certaines personnes, la retraite est associée à la détente, au temps libre, au voyage et aux projets personnels. Mais pour plusieurs aînés LGBTQ+, cette étape de vie marque plutôt un point de bascule. Perte du milieu de travail où l'on se sentait reconnu, réduction d'un réseau social déjà mince, éloignement ou décès de membres de la famille choisie, disparition d'amis emportés par la crise du sida et impression d'être devenu invisible dans une culture LGBTQ+, qui valorise très souvent l'énergie jeune et la performativité de l'image. Ces réalités peuvent peser lourd sur la santé mentale, parfois plus que la société ne le réalise. Pierre, 72 ans, Montréal. Quand j'ai pris ma retraite, je croyais naïvement que j'allais enfin me reposer. Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans une entreprise où mes collègues savaient que j'étais gay et m'acceptaient tel que j'étais. Ce n'était pas juste un emploi, c'était un espace où je pouvais respirer, rire et me sentir utile. Quand ça s'est terminé, j'ai eu l'impression qu'on m'avait retiré une partie de mon identité. Pierre vit seul depuis le décès de son conjoint, il y a 15 ans. Ses amis proches, pour la plupart rencontrés dans les années 1980, sont soit décédés, soit vivent loin. On se parle sur Zoom, mais ce n'est pas pareil que de partager un repas ou d'aller au cinéma ensemble. Il se sent aussi en décalage avec certains espaces LGBTQ+ actuels. Quand je vais dans un bar, j'ai souvent l'impression d'être un intrus. Le regard des jeunes est souvent bienveillant, mais parfois je sens qu'ils se demandent ce que je fais là. Certains pensent que je me recherche un prostitué. Les événements sont souvent centrés sur l'apparence, la séduction, la danse jusqu'à 3 heures du matin. Moi, je veux juste jaser. Mais je ne trouve pas toujours ma place. Pierre a connu une période de dépression légère après sa retraite. Perte d'appétit, fatigue, désintérêt pour ses passe-temps. Durant l'entrevue, on lui parle de l'ARC qu'il ne connaît pas. Je pense sérieusement qu'un groupe de soutien pour aînés LGBTQ+ m'aurait aidé à remonter la pente. Entendre d'autres personnes raconter exactement ce que je vivais, ça m'aurait réconforté. On se comprend sans avoir à tout expliquer. Lise, 75 ans, Québec. Lise a vécu la majeure partie de sa vie professionnelle dans un milieu où elle n'avait pas fait son coming out complet. Je travaillais comme enseignante, et même si mes collègues étaient gentils, j'avais peur des préjugés. Ma conjointe et moi étions ensemble depuis 27 ans, mais je parlais rarement d'elle au travail. À la retraite, elle espérait profiter de son temps avec sa partenaire, voyager et s'impliquer dans la vie communautaire. Mais la maladie a frappé. Sa conjointe est décédée d'un cancer 3 ans après le début de leur retraite. J'ai perdu ma moitié, et en plus, je n'avais pas un grand réseau autour. Ma famille biologique ne m'a jamais vraiment accepté. Lise s'est tournée vers des activités sociales locales, mais s'est vite rendu compte qu'elle était souvent la seule personne ouvertement lesbienne dans les groupes d'aînés. J'étais poli, mais je me sentais toujours un peu à part. Et puis, il y a des commentaires qui ne sont pas méchants, mais qui rappellent que tu n'es pas comme les autres. Elle a également ressenti un sentiment de déconnexion avec une partie du milieu LGBTQ+. Quand je vois les affiches ou les photos des événements, je me reconnais rarement. C'est beaucoup de visages jeunes, d'images très dynamiques. Je comprends que ça attire du monde, mais ça donne l'impression que, passé un certain âge, on n'existe plus. Entre invisibilité et résilience, les récits de Pierre-Élise reflètent une réalité que plusieurs recherches confirment. Les aînés LGBTQ+ font face à des facteurs de risque accrus pour la santé mentale, notamment l'isolement social, la perte de soutien et l'homophobie ou la transphobie persistante. Historiquement, beaucoup ont dû cacher leur orientation ou identité de genre pendant une partie de leur vie, ce qui a pu freiner le développement de réseaux solides. La crise du sida des années 1980-1990 a aussi profondément marqué leur génération, emportant des amis, des amants, amantes et des mentors, et laissant des cicatrices émotionnelles qui rejaillissent parfois au moment de la retraite. L'impression de ne plus être représenté dans les espaces communautaires peut aussi accentuer le sentiment d'isolement. Les lieux LGBTQ+ restent souvent centrés sur des codes et des rythmes de vie plus jeunes. Culture nocturne, esthétique corporelle valorisant la performance physique, usage intensif des réseaux sociaux. Pour les aînés, ces environnements peuvent sembler étrangers, voire excluants. Vieillir en tant que personne LGBTQ+ ne devrait pas signifier disparaître des radars sociaux ou communautaires. Les histoires de Pierre-Élise nous rappellent que derrière les sourires des photos de retraite, il y a parfois une solitude lourde, amplifiée par l'invisibilité et le manque de reconnaissance. C'était « Quand la retraite rime avec isolement », un texte de Chantal Cyr paru le 27 août 2025 dans le magazine Fugue.
Longueuil rend hommage à René Lévesque, le député. Un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 22 août 2025 dans Le Devoir. La ville de Longueuil a inauguré vendredi le 22 août 2025 sa nouvelle promenade René Lévesque, revampée au coût de 5 millions de dollars et désormais agrémentée d'un parcours historique qui relate la vie et l'œuvre de celui qui fut député de la circonscription de Taillon pendant presque une décennie. La promenade, qui longe le fleuve Saint-Laurent, de la Marina de Longueuil jusqu'à Boucherville, était en travaux majeurs depuis 2024, notamment pour rebâtir la piste cyclable arrivée à la fin de sa vie utile. Le parcours est désormais doté d'une exposition en plein air qui relate les grands moments de la vie de René Lévesque, de son enfance jusqu'à l'accession au poste de premier ministre, mais aussi son passage comme député de Taillon, rôle moins connu. On connaît la contribution de M. Lévesque en tant que premier ministre ou en tant que ministre des Ressources naturelles lors de la nationalisation de l'électricité. Mais on connaît moins sa contribution en tant que député de Taillon pendant une dizaine d'années. Il a laissé sa marque indélébile sur notre communauté et je crois qu'on doit rendre hommage à tout ce pan de notre histoire, a expliqué la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, au moment de l'inauguration. De 1976 à 1985, le député Lévesque aura permis à la circonscription de se doter d'un palais de justice, de l'hôpital Pierre-Boucher, ainsi que de deux CLSC et de deux CHSLD. Surtout, il aura tissé un lien durable avec la population locale, selon Mme Fournier, qui a été, de 2016 à 2021, députée de la circonscription voisine de Marie-Victorin, elle-même créée à partir d'une partie du comté de Taillon. Je me rappelle, lors de ma première campagne électorale, j'ai rencontré des membres et des sympathisants du Parti québécois plus âgés qui se souvenaient de M. Lévesque, du temps qu'il était député. Ils m'ont raconté que, le lundi, c'était sa journée dans Taillon. On savait qu'il allait faire la tournée des petites cantines du coin, puis qu'il ferait le tour de la rue Sainte-Hélène, a raconté au Devoir Mme Fournier. Un salon de coiffure du coin, où il avait ses habitudes, chemin du Coteau Rouge, porte d'ailleurs le nom de Tipoil en son honneur. Même quand il était premier ministre, il prenait une journée sur sept pour s'en compter. Il n'y a pas d'autres premiers ministres dans l'histoire récente qui ont fait une telle chose. Je pense que ça en dit beaucoup sur l'homme qu'il était, a souligné Catherine Fournier. Il a toujours été présent dans sa circonscription, même s'il était premier ministre, a ajouté l'historien Jean-Charles Panneton, qui a signé une histoire du gouvernement Lévesque en trois tomes chez Septentrion. Il était très intéressé à son travail de député, malgré son agenda chargé. Il a toujours dit à ses ministres « Soyez prêts à aller rencontrer les citoyens. » Ce n'était pas juste une phrase en l'air. Il croyait vraiment, fondamentalement, qu'il fallait rester branché sur les Québécois. Bastion péquiste. La circonscription de Taillon, qui comprend une bonne partie de Longueuil, a permis à M. Lévesque de se faire élire une première fois sous la bannière du Parti québécois, PQ, en 1976, après deux échecs successifs sur l'île de Montréal. Pourtant, ce n'était pas le premier choix du chef du PQ. On l'a pris par le collet, on l'a amené et on l'a convaincu. C'est rappelé avec le sourire Pierre Marois, élu en 1976 dans la circonscription voisine de La Porte. Lui, dans sa tête, c'était Laurier, son comté. Il trouvait que c'était comme trahir les gens de Laurier que de le quitter. C'était comme ça qu'il voyait les choses. Mais nous autres, on avait besoin du meilleur candidat dans Taillon. La circonscription le lui rendra bien. Élu le 15 novembre 1976, avec 62 % des voix, il fera encore mieux en 1981, en récoltant 68 % des suffrages et une majorité confortable de plus de 12 000 voix. C'était une de nos meilleures circonscriptions. Les militants péquistes n'en revenaient pas de pouvoir avoir le chef dans leur cour, s'est remémoré Pierre Marois, qui fut ministre au développement social et ministre du Travail dans le gouvernement Lévesque. Cet ancien bastion péquiste, qui a aussi été représenté à l'Assemblée nationale par Pauline Marois et Marie Malavoie, est entre les mains de la coalition Avenir Québec et du ministre Lionel Carman depuis 2018. C'était Longueuil rend hommage à René Lévesque, le député. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 22 août 2025 dans Le Devoir.
Faire des bébés, c'est payant. Mais personne n'en veut. Un texte de Pierre-Olivier Zappa, paru le 10 septembre 2025 dans Le Journal de Montréal. Jamais dans l'histoire du Québec, les familles n'ont fait aussi peu de bébés. 1,33 enfants par femme. Un cru historique. Même dans les années 80, en pleine crise économique, on faisait plus de bébés. Et pourtant, jamais le Québec n'a été aussi généreux avec les familles. Aujourd'hui, un couple peut recevoir jusqu'à 50 semaines de congé parental. Le papa a droit à 5 semaines payées à 70 % de son salaire. La maman à 18 semaines de congé de maternité. Ensuite, 32 semaines à partager, dont les premières à 70 % du revenu, puis à 55 %. On parle ici d'un des régimes les plus généreux au monde. Ajoutez à ça des places en garderie à 9,10 $ par jour. Ajoutez à ça les prestations familiales. Grâce à l'allocation canadienne pour enfants, une famille moyenne avec 3 enfants peut recevoir jusqu'à 12 000 $ par année. C'est l'équivalent de 10 % d'un salaire familial moyen. Ajoutez à ça la fécondation in vitro gratuite payée par le gouvernement du Québec. Et malgré toutes ces mesures, on ne fait plus d'enfants. La Cadillac. Au Québec, On a mis au point la Cadillac des politiques familiales et elle reste dans le garage. Clairement, le problème n'est plus financier. Il est culturel, social et structurel. Faire un enfant dans la tête des jeunes familles, c'est devenu un projet risqué. Un projet souvent trop cher, trop exigeant, trop contraignant. Le logement est inaccessible. Le coût de la vie explose. Les jeunes parents sont à bout de souffle. Le résultat est préoccupant. D'ici 5 ans, un Québécois sur 4 aura plus de 65 ans. Dire qu'on manque déjà de médecins spécialisés pour soigner les aînés. Pendant ce temps, la jeune génération crie « Boomer » sur TikTok. Mais pendant qu'on blâme les plus vieux, personne ne prépare la suite. Parce qu'à ce rythme-là, ce n'est pas en CPE que se joue l'avenir du Québec, mais en CHSLD. Et l'enfant roi n'est plus. C'est le papy roi qui s'installe. Avec sa pension, son bungalow payé, son REER gonflé, et bientôt son lit en CHSLD réservé. Quoi faire? Le Québec paie pour des bébés, mais récolte une crise démographique. Il est temps d'arrêter de penser que l'argent suffira. Faire un enfant, ce n'est pas juste une affaire de chiffres. C'est une décision intime, émotive, existentielle. Aujourd'hui, trop de jeunes parents ont l'impression de devoir s'excuser d'avoir un bébé. Dérangeant dans l'autobus, inadapté au bureau, encombrant au resto. La parentalité s'est banalisée, parfois même dévalorisée. Il est grand temps de renverser cette perception. Il faut revaloriser le rôle de parent dans le discours public, dans les milieux de travail et dans l'aménagement de nos villes et nos villages. Donner envie, pas en envoyant au dépôt direct, mais en bâtissant une culture qui célèbre l'arrivée d'un enfant. Le message doit être clair. Au Québec, fonder une famille, c'est une richesse et non un sacrifice. C'était « Faire des bébés, c'est payant. Mais personne n'en veut. » Un texte de Pierre-Olivier Zappa, paru le 10 septembre 2025 dans le Journal de Montréal.
Du cœur au ventre. Un texte de Maxime Bilodeau, paru le 21 août 2025 dans le magazine Québec Science. Dans un contexte où le nombre de maladies inflammatoires intestinales explose chez les plus jeunes, le Dr Prévost Janchou, J-A-N-T-C-H-O-U, améliore le parcours de soins de ce groupe particulier. Un diagnostic de maladie inflammatoire intestinale est toujours une mauvaise nouvelle, surtout durant l'enfance. À redouter, de terribles douleurs abdominales ainsi que, dans la foulée, les risques de carences nutritionnelles, d'anémie, de retard de croissance et d'une plus grande probabilité de développer un cancer colorectal. Hélas, l'incidence de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, toutes deux des affections chroniques, sont en forte hausse chez les jeunes. Cela est tout particulièrement vrai au Canada, qui est l'un des pays où l'on trouve les taux de maladies inflammatoires intestinales les plus élevés au monde. Depuis son arrivée au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine en 2011, le Dr Prévost Janchou, clinicien et chercheur en gastro-entérologie et pédiatrique, est témoin de cette flambée. Citation, nous sommes passés d'une centaine de cas par année à environ 150. Dans un cas sur 4, il s'agit d'un enfant de moins de 10 ans, ce qu'on voyait peu jadis. Fin de citation, souligne le professeur au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Ses recherches sur les facteurs de risque environnementaux de ces maladies et l'amélioration des soins prodigués lui ont valu d'être reçu au sein du Collège de la Société royale du Canada en 2024. Citation, un tremplin formidable pour changer la société. Se réjouit-il. Rendre les malades autonomes. Très tôt dans sa carrière, Prévost Janchou remarque un curieux phénomène. Il lui semble en effet que les maladies inflammatoires intestinales sont plus fréquentes à des latitudes éloignées des tropiques. Une carence en vitamine D, synthétisée de manière naturelle sous l'action du soleil, serait-elle en cause? Citation, j'en avais à tout le moins l'intuition, car dans mon pays natal, le Cameroun, l'incidence de ces maladies est assez faible, mentionne-t-il, fin de citation. Des analyses sur une base de données comptant plus de 100 000 personnes confirment cette hypothèse. Citation, la supplémentation massive en vitamine D pourrait être bénéfique pour atténuer les symptômes de ces maladies. Fin de citation. Parmi les autres facteurs de risque connus des maladies inflammatoires intestinales chez les enfants figurent notamment la prise d'antibiotiques, la consommation d'aliments hautement transformés et le mode de vie urbanisé. Autant de pistes à explorer pour mieux accompagner la jeune parentèle. Citation, la prise en charge précoce améliore le parcours de soins, souligne le pédiatre. Si elles sont bien traitées, ces maladies ont peu d'incidence sur la qualité et l'espérance de vie. Fin de citation. Or, encore faut-il que les jeunes patients et patientes adhèrent au traitement. Citation, les adolescents ont naturellement tendance à le délaisser quand ça va bien. Regrette-t-il? Fin de citation. Cette observation fait écho à une autre difficulté vécue par cette population. Le passage aux soins adultes à 18 ans. Une mauvaise transition à cette étape clé peut se traduire par une faible observance thérapeutique suivie de rechutes, voire d'hospitalisation. C'est pourquoi l'équipe du Dr. John Chu a collaboré au développement de l'application numérique Enjoy pour Intestinal Joy. Ceci permet aux jeunes de prendre en main leurs propres soins en évaluant leurs symptômes. Citation, l'outil comprend un agent conversationnel mu par l'intelligence artificielle et intégrera sous peu des recommandations en fonction du microbiome de l'utilisateur, précise le chercheur. Fin de citation. Docteur Sourire. En parallèle de ses activités de clinicien-chercheur, le Dr Prevost John Chu multiplie les implications sociales. Sur TikTok, il vulgarise avec bienveillance et ouverture sa spécialité médicale sous le surnom de Dr Sourire. Ses vidéos, dont certaines frôlent la demi-heure, sont relayées à presque 420 000 abonnés. Citation, je crois beaucoup en cet idéal de recherche horizontale qui intègre certes le patient, mais aussi une multiplicité de visages. Fin de citation, précise le pédiatre. Celui-ci a également mis sur pied en 2020 la Fondation Inspire, dont la mission consiste à favoriser la réussite scolaire des jeunes d'Afrique ou des Caraïbes âgés de 14 à 22 ans, notamment par un programme de mentorat. Sans surprise, ce personnage charismatique, animé par le bien commun, fait office de mentor auprès de plusieurs médecins et scientifiques en devenir. Parmi ce groupe, Chloé Vaccarino, étudiante en médecine à l'Université de Montréal, souffre elle-même de la maladie de Crohn. Au sein de l'équipe du Dr John Chu, elle étudie les liens entre différentes caractéristiques du corps, comme les pourcentages de masse grasse et de masse maigre, et les maladies inflammatoires intestinales. Citation, malgré son emploi du temps surchargé, le Dr Prevost John Chu trouve toujours le temps de nous appuyer dans notre propre recherche, confie-t-elle. Il est un peu le médecin que je souhaite devenir plus tard. Fin de citation. Les questions de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Vous avez fondé la Fondation Inspire pour soutenir la réussite scolaire et professionnelle des jeunes afro-caribéens au Québec. Pourquoi cet engagement? Je considère que c'est à la fois un devoir moral et une responsabilité collective de s'engager pour la jeunesse. Plus jeune, je n'ai pas eu la chance de bénéficier d'un accompagnement structuré, d'encouragement ou de modèles qui auraient pu m'ouvrir la voie. C'est pourquoi j'ai voulu, avec la Fondation Inspire, offrir un espace d'écoute, de transmission, d'encadrement. Pour moi, le mentorat ne se résume pas à prodiguer des conseils ponctuels. C'est une démarche d'élévation mutuelle. C'est croire en l'autre avant même qu'il ne croie en lui-même. Je me définis comme un portier, celui qui ouvre les portes. Pas seulement celle d'un bureau ou d'une occasion, mais celle de la confiance, de l'ambition, de l'audace. Vous êtes un communicateur chevronné. En quoi ce dialogue avec la société est-il important? Le transfert de connaissances est-il un défi? L'objectif ultime d'un chercheur, c'est d'améliorer concrètement le bien-être de la population. Le dialogue avec les jeunes et avec le grand public est donc essentiel. Il ne s'agit pas simplement de transmettre un savoir, mais d'entrer dans une relation d'écoute mutuelle. Comprendre les préoccupations, déterminer les besoins et y répondre de manière pertinente. La science doit être un pont, pas une tour d'ivoire. C'est dans cette perspective que je multiplie les canaux de communication. Conférences, réseaux sociaux, romans. Chaque espace est une occasion de dire ce que je fais, mais aussi de faire ce que je dis. Tendre la main, partager, inspirer. Ce sont des prolongements naturels de ma vocation de chercheur. Oui, le transfert de connaissances est un défi pour les laboratoires, mais c'est aussi une formidable occasion, celle de rendre la recherche vivante, utile et profondément humaine. Quel effet vos jeunes patients et patientes ont-ils sur votre métier et sur vos recherches? Ma recherche est centrée sur les patients, sur leurs besoins, leurs attentes, leurs angoisses. Très souvent, en clinique, un jeune me demande « Pourquoi moi, docteur? Pourrais-je un jour guérir? » Ces questions nous ramènent à l'essentiel. La science doit d'abord servir à comprendre et à soulager. Ce sont ces interrogations qui me poussent à aller plus loin, à bâtir des projets qui ont du sens, qui écoutent, qui répondent, qui respectent. Je crois à une science éthiquement engagée et cela passe par une vraie place donnée aux patients comme partenaires de soins et de recherche. En pédiatrie, cela implique aussi les parents. Leur voix, leur vécu, leurs inquiétudes nourrissent ma réflexion et m'aident à mieux cerner les angles morts de la recherche traditionnelle. Mais pour établir un partenariat solide et équitable, il faut aussi pouvoir comprendre sa propre santé. C'est là que la boucle se boucle avec ma mission de vulgarisation. Donner les clés pour permettre à chacun, petit à petit, de maîtriser ce grand manuel du corps humain. C'est cette dynamique qui donne toute sa valeur à mon métier de chercheur. Et c'est, je crois, ce qui donne aux découvertes un véritable impact. C'était « Du cœur au ventre », un texte de Maxime Bilodeau, paru le 21 août 2025 dans le magazine Québec Science.